France Musique. Musicopolis. Jean Gilles, Toulouse, 1705. La carrière de Jean Gilles est entièrement tournée, nous l'avons vu, vers la musique religieuse. Mais si son inclination l'y avait porté, il aurait trouvé à Toulouse de quoi épancher une veine profane. Comme toutes les villes de France, en particulier les villes dites alors majeures pour leur importance, Toulouse a dans ses murs une corporation de ménétriers, dont les statuts ont été déposés en 1492. Ce sont tout simplement les joueurs d'instruments, instruments eux-mêmes divisés en hauts et bas, les hauts instruments étant ceux qui sonnent le plus fort, le plus haut, et peuvent se faire entendre dehors. La ville de Toulouse dispose de hauts instruments pour mettre en valeur les grandes cérémonies municipales. Et elle dispose aussi de bas instruments, ceux qui sonnent bas, les flûtes douces et toutes les familles de cordes. Les cordes sont l'apanage particulier des maîtres à danser qui donnent leur leçon de danse avec le violon à la main et qui sont certainement nombreux dans la ville puisque sous Louis XIV, le noble doit apprendre à danser, une obligation absolue s'il veut un jour paraître à la cour. On sait, grâce à Molière, que le bourgeois aussi apprend à danser pour espérer se hausser dans la hiérarchie sociale.
En cadence, s'il vous plaît. La jambe droite,
puisque la ville de Toulouse a ses joueurs d'instruments à cordes, elle a aussi parmi ses corporations celle des faiseurs de cordes, c'est logique. Ceux-ci déposent leur statut en 1691. Ils sont établis par, je cite, « Angelo D'Angeli et Marco Thierry, Romains de nation, maîtres faiseurs de cordes, de violon, luth, viol et autres instruments musicaux, sous le bon plaisir de messieurs les Capitouls ». 15 articles font le tour de la profession, le troisième nous décrit le métier. Ceux qui voudront parvenir à la maîtrise seront tenus de se présenter au maître dudit métier pour leur demander à faire chef-d'œuvre, qui consistera à bien décharner les boyaux, les rafraîchir, lisser, tordre, plier et empaqueter les cordes, une douzaine de chaque espèce, bien préparer l'eau forte pour donner le dernier assaisonnement aux cordes. Parmi les occasions qu'ont les Toulousains de se réjouir et de célébrer en musique, est la venue à Toulouse des ducs de Bourgogne et de Berry, deux petits-fils de Louis XIV, respectivement 19 et 16 ans, en 1701. Le corps des marchands met sur pied quatre compagnies avec des uniformes chatoyants. Un chroniqueur révèle qu'il y avait non seulement de quoi contenter la vue, mais même de quoi réjouir Louis par le grand nombre de tambours, de hautbois et de fifres que chaque compagnie se piquait d'avoir à l'envi de l'autre. Mais comme tout passe par la célébration religieuse, c'est à la cathédrale qu'il faut être, nous dit le chroniqueur. À Saint-Étienne, où la plupart des places furent louées jusqu'à 2000 louis d'or. Elles furent remplies dès 9h du matin, toutes les rues tapissées et la plupart des fenêtres ornées de riches tapis. Monseigneur le duc de Bourgogne et Monseigneur le duc de Berry nous dit le chroniqueur du Mercure en 1701, allèrent à la messe à l'église cathédrale, où ils furent reçus devant le bénitier par M. Colbert, archevêque de Toulouse, qui les harangua et leur présenta l'eau bénite. Il était en habits pontificaux, la mitre en tête et la crosse à la main. Son chapitre, qui était très nombreux, était en chape, rangé à droite et à gauche. Le discours de M. l'archevêque reçut de grands applaudissements. Messeigneurs les princes furent ensuite conduits dans le chœur, où ils trouvèrent un pied-dieu à deux places. Un de leurs aumôniers dit la messe, pendant laquelle M. Gillet, maître de musique du chapitre, fit chanter un très beau motet par les plus belles voix et avec les meilleurs instruments de la province que messieurs du chapitre avaient fait venir exprès à Toulouse. À l'issue de la messe, M. l'archevêque en camaille et en rochet et messieurs du chapitre en surplis reconduisirent messeigneurs les princes jusqu'à la porte de l'église. Le lendemain, poursuit le chroniqueur du Mercure, les princes allèrent avant 9h à l'église de Saint-Étienne où M. l'archevêque, accompagné de son chapitre en surplis, leur présenta l'eau bénite et les conduisit au chœur. Ils voulurent que M. Gillet, maître de musique de cette cathédrale, dont la musique avait déjà eu le bonheur de leur plaire, fît chanter pendant la messe. Il eut avant leur départ des marques de leur libéralité. M. l'archevêque les accompagna en sortant, suivi de tous les évêques et de tout son clergé.
Per penna sentor.
En dehors des fêtes exceptionnelles pour les naissances royales, pour les victoires royales, pour les passages de princes et autres circonstances royales, l'année du maître de musique Jean Gilles, Monsieur Gillet comme l'appelait le chroniqueur du Mercure, est rythmée par les dimanches ordinaires et par les fêtes religieuses récurrentes. Il compose un certain nombre de motets pour ces grandes circonstances, comme on le fait à Versailles, même si le chapitre y semble peu favorable. Celui-ci se plaint dans une délibération que le motet est trop long et rajoute trop de temps à la messe. Nous ne savons pas si Gilles a tout de même pu faire entendre ses lamentations pour la Semaine Sainte, composée quelques années plus tôt pour être chantée à Aix-en-Provence et qui lui avait valu de la part du chapitre de Saint-Sauveur, je cite, « un louis d'or valant 12 livres 10 sous pour l'exciter à faire son devoir de mieux en mieux ». La particularité des lamentations de Jean Gilles est qu'elles sont écrites pour un effectif important, solistes, chœur et orchestre, alors que ses confrères versaillais ou parisiens à la même époque font entendre plutôt une petite formation, un ou deux solistes et basse continue. La réputation de Jean Gilles après sa mort a reposé essentiellement sur son Requiem. Il a été chanté durant tout le XVIIIe siècle et en particulier aux funérailles de Louis XV et à celles de Rameau. C'est par cette œuvre également que le musicien a été redécouvert au cours du XXe siècle. Thank you. un certain l'abbé de Morembert, dans son « Sentiment d'un harmoniphile sur différents ouvrages de musique », livre paru en 1756, 51 ans après la mort de Jean-Gilles, raconte ainsi l'histoire de son requiem. Deux conseillers au Parlement de Toulouse moururent à peu de distance l'un de l'autre. Ils laissèrent chacun un fils. L'amitié la plus étroite les ayant liés dès leur jeunesse, ils convinrent entre eux de se joindre pour faire à leur père un superbe service. Comme ils voulaient que tout répondît à la grandeur de leur projet, ils allèrent trouver Gilles, qui s'était acquis par plusieurs beaux motets la réputation d'un très habile homme. Après lui avoir communiqué leur dessein, ils l'engagèrent à composer une nouvelle messe de requiem, ne trouvant pas celle que l'on avait coutume d'exécuter assez belle. Gilles demanda 6 mois. Ce temps lui fut accordé. On lui promit de le bien récompenser, et pour l'encourager à faire de son mieux, on lui donna en attendant 10 louis d'or d'avance. Gilles, ayant fini de composer sa messe, rassembla tous les musiciens de la ville pour en faire la répétition. Il y invita les meilleurs maîtres de musique des environs, entre autres Campras et l'abbé Madin. Ceux qu'il avait commandés ne furent pas oubliés. L'ouverture et l'introïte furent trouvés admirables, et l'offertoire ainsi que le reste de la messe reçut des applaudissements. Mais comme la plupart des jeunes gens sont bientôt distraits de leur chagrin par la foule des plaisirs qui les environnent, les deux jeunes conseillers, qui avaient déjà sans doute oublié leur père, changèrent d'avis et se dédirent. Gilles en fut si piqué qu'il s'écria « Eh bien, elle ne sera exécutée pour personne, et j'en veux avoir l'étrenne. » En effet, conclut le texte, la mort l'ayant enlevé à la fleur de son âge, tous les musiciens de la ville se joignirent à ceux du chapitre pour lui rendre les derniers devoirs, et sa messe de requiem, que l'on trouva manuscrite dans ses papiers, fut exécuté pour la première fois. Bien des personnes, écrit l'abbé Bougerel, le premier biographe du musicien, ont cru que Gilles avait eu un pressentiment secret de sa mort. Car le 28 janvier, jour auquel il tomba malade, il dit à l'organiste, chez qui il allait quelquefois jouer du clavecin, qu'il se sentait près de sa dernière heure, quoiqu'il fût en parfaite santé. Attaqué le soir même d'une grande fièvre et d'une douleur d'entrailles très violente, il fit appeler un bénéficier de l'église Saint-Étienne, en qui il avait confiance. Son mal augmenta pendant la nuit. Un des chanoines lui administra le viatique. Son confesseur, qui était à ses côtés, lui parla quelques moments. Il reprit alors son calme et sa tranquillité et dit tout haut « Veni Domine et noli tardere ». Il reçut le corps de Jésus-Christ avec de grands sentiments d'amour et de confiance. Dès ce moment, il ne parla plus et rendit son âme à Dieu le 5 février 1705 à 8h du soir, âgé de 36 ans. La nouvelle de sa mort attira à ses funérailles une foule extraordinaire. La plupart pleuraient et s'écriaient qu'on avait fait une perte irréparable. On fit graver sur son tombeau l'épitaphe « C.J. Jean-Gilles, clerc de cette église, maître dans l'art de la musique, harmonie remarquable, tant par son sens musical que par ses mœurs. » Le Requiem de Jean-Gilles par le chœur de chambre Les Éléments et l'ensemble Les Passions dirigé par Jean-Marc Andrieux, des interprètes qui chantaient aussi à peu près tout ce que nous avons entendu de Jean-Gilles au cours de cette série. Tout le programme, la réécoute et le podcast sont à présent sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Delphine Baudet, Adèle Moll, Philippe Demenoux et Béatrice Trichet.
À réécouter sur francemusique.fr.